Frères et sœurs, bonsoir.
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 Oui, nous voici de nouveau autour de la parole du Seigneur. Nous sommes dans la joie d'être là en famille. Avant la méditation, nous demandons à notre sœur Tibola de priez le Seigneur.
Père, nous te disons merci pour ce moment que tu nous donnes encore pour partager ta parole ce soir. Grand Dieu, toi qui as été avec nous, notre Père, pour cette opportunité pour écouter ta parole, nous entre tes mains et nous nous soumettons, Père, à toi, afin que tu puisses disposer nos cœurs à l'écoute de ta parole, mais aussi à la parole. Pose-nous, Seigneur, notre vue, parce que nous ne pouvons pas vivre sans ta parole. Dis, Seigneur, que tu utilises puissamment les modérateurs de ce soir. Seigneur, la parole selon ta volonté. Dieu pour tout, dans les noms de
Oui, Amen.
Amen.
Amen. Amen.
Oui, notre sœur se coupe, mais on a compris que elle a terminé la prière. Bien-aimés, nous prenons la Bible, nous lisons plus précisément au 9e chapitre de l'Évangile selon Marc. Nous lisons le programme nous envoie à partir du verset 2, mais le modérateur vous demande d'aller au premier verset jusqu'au verset 13. Papa Médard.
Oui, merci, pasteur José des États-Unis pour la parole. Nous allons lire dans Marc chapitre 9, du verset 1er au verset 13. Il leur dit encore, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qui n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Deux jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seul à l'écart sur une autre montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'y a pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent s'entretenant avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Car ils ne savaient que dire, l'effroi les ayant saisis. Une nuée vint les couvrir. Et de la nuée sortit une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Aussitôt les disciples regardèrent tout autour et ils ne virent que Jésus seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme fût ressuscité des morts. Ils retinrent cette parole, se demandant entre eux ce que c'est que ressusciter des morts. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement? Il leur dit, Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Et pourquoi est-il écrit du Fils de l'homme qui doit souffrir beaucoup et être méprisé. Mais je vous dis qu'Élie est venu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu, selon qu'il est écrit de lui. Amen.
Amen.
Amen. Merci, merci beaucoup, frère Médard. Nous avons été bénis hier lorsque nous avons entendu notre Seigneur interroger ses disciples sur ce qu'il est. La réponse des disciples fit qu'il est le Christ. C'est bien Pierre qui avait répondu à cette question exactement. Après cela, le Seigneur a parlé de ses souffrances, de sa mort, mais aussi de sa résurrection. Il a ensuite parlé et aux disciples et à la foule pour leur montrer comment suivre le Seigneur, comment le suivre. Aujourd'hui, il a pris trois de ses disciples pour aller sur une montagne. Et là, il fit transpirer. Il a dit aussi beaucoup de choses importantes. Nous verrons lorsque nous allons partager la
parole. Non, l'endemain.
Oui, il a parlé à ses disciples sur ce qui va arriver en ce qui le concerne, mais il y a eu un entretien, question-réponse que les disciples ont posé sur Élie. Et le Seigneur leur a répondu. Voilà, c'est ça l'essentiel de ce que nous avons lu. Notre passage contient trois questions. La première question, c'est la question numéro un, sur de quoi ou de qui parle le texte. La question numéro 2, sur la Trinité. Et la question numéro 7, sur la vérité que le Seigneur nous montre, nous révèle dans ce texte. Oui, bien-aimé, ce texte, nous le connaissons bien, mais ce soir, le Seigneur veut que nous le méditions. Pour cela, nous devons adopter une attitude de méditation, c'est-à-dire d'approfondir, de réfléchir, même si on n'a pas assez de temps, mais le Saint-Esprit peut nous aider à méditer cette parole pour voir ce que Dieu veut que nous fassions ce soir et durant notre vie. 2 minutes suffisent pour dire ce que nous avons. Nous faisons cela pour permettre à plusieurs de parler. Bien-aimés, nous sommes là autour de la parole de Dieu. N'ayons pas d'hésitation. Nous sommes tous frères et sœurs. C'est Dieu qui nous appelle. si nous avons une question qui vient de nous-mêmes, une question qui ne nous a pas été envoyée pour interroger, mais notre propre question, c'est bien de la poser pour comprendre si le Seigneur nous donne son esprit, nous pouvons répondre à cette question et la lumière sera jaillie dans notre cœur, puisque celui ou celle qui pose la question, elle est importante, la question, non seulement pour lui, mais aussi pour ceux qui l'écoutent. Voilà, bien-aimés, nous pouvons commencer. Nous pouvons commencer notre méditation à partir du verset 1 jusqu'au verset 13. Papa, pasteur José, tu as la parole.
Merci, frère. Dans le verset 1, en fait, nous l'avons lu aussi hier, le Seigneur dit, il proclame, selon une formule qui lui appartient, pour dire en vérité, je vous le dis, c'est une phrase qui atteste la véracité ou la profonde réalité de ce qu'il annonce. Et dans cette annonce qu'il fait, il dit à ses disciples que quelques-uns ne mourraient pas avant qu'ils aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Et dans la suite, le verset 2 et 3 montre une expérience que quelques disciples, Pierre, Jacques et Jean, ont vécue. Qui montre la splendeur, la gloire du Seigneur, et il nous assiste à cela. Donc, au fait, le Seigneur, par cette expérience qu'il leur donne, il vient confirmer sa parole qui a été annoncée au verset 1, que quelques-uns verraient sa gloire. Donc, ce que le Seigneur dit, il l'accomplit toujours. Parfois, ce qu'il annonce peut nous paraître impossible à nos yeux, parce que comment on peut être encore en vie et cependant voir le royaume de Dieu avec puissance. Et cette expérience de Pierre, Jacques et Jean est une confirmation de l'annonce du Seigneur faite au verset 1. Voilà.
Merci beaucoup, frère. Le Seigneur a annoncé que quelques-uns parmi vous, ici, dans l'assemblée, dans la foule, ne mourront pas. Et c'est vrai, Pierre, Jacques et Jean sont encore vivants et ils ont vu le Seigneur dans sa splendeur. Oui, notre Seigneur est Dieu quand il parle. La chose s'accomplit exactement. Tôt ou tard, ça doit s'accomplir. Merci, notre frère. Papa Célestin ou maman Christine.
Oui, merci, pasteur José, pour la parole. Le tout premier verset aussi m'interpelle. Quand le Seigneur dit que quelques-uns parmi vous ne mourront pas sans voir le royaume des cieux, le royaume de Dieu avec puissance. Quelques commentateurs pensent aussi à la venue du Saint-Esprit, la descente du Saint-Esprit le jour de Pentecôte a été une démonstration du royaume des cieux d'une façon fracassante. Et parmi ceux qui ont vu la Pentecôte, la descente, pentecôte du Saint-Esprit avec des grands bruits. Il y en avait déjà parmi ceux que le Seigneur parlait, tels que Judas était déjà mort. Donc, quelques vivants ont vu cette puissance du royaume des cieux, mais parmi eux, quelques-uns étaient déjà morts. Voilà comment la fidélité de Dieu s'accomplit aussi dans ce verset en disant « Ceux qui sont ici, quelques-uns, parce qu'il sait que d'autres n'allaient pas voir cette puissance, la manifestation de cette puissance de Dieu. » Amen.
Mm-hmm. Merci. On voit aussi la venue du Saint-Esprit. Merci. Oui, nous voulons aussi donner la parole à qui? Au modérateur, puisque je ne vois pas, il n'y a pas de main. Bien-aimé, je prends le verset 3. Je commence donc à la fin du verset premier. Il changea d'aspect devant leurs yeux. Ses vêtements vinrent d'un blanc si brillant que personne sur toute la terre ne pourrait les blanchir. Point. Oui. Le Seigneur, il change ses habits, change aussi d'aspect, puisque ses habits, oh papa, Célestin, est-ce que tu peux me secourir là-bas pour que cet écho?
Oui, c'est fait.
Ok. Merci. Je disais que le Seigneur change d'aspect, ses habits deviennent très blancs, et on dit même que la brillance n'a pas de comparaison. On peut mettre ses habits dans une quelconque machine à laver, mais ils ne seront pas blanc comme les habits du Seigneur. Pour nous montrer que ici, le Seigneur Jésus n'est pas ce Jésus que Jean, Jacques et Pierre ont l'habitude de voir. Il est maintenant dans un autre monde, tout en étant là où on l'a vu sur la montagne. C'est encore la terre, mais ce n'est pas paix habituelle. C'est pour nous dire que notre Seigneur, si il a porté ce corps qu'on avait l'habitude de voir, ce corps qui est allé jusqu'à la croix, c'est tout simplement parce qu'il était venu pour mourir pour nous. Mais en fait, il n'est pas de cette terre. Il est Dieu. Et il a montré cela. Ceux qui sont ces croyants comme nous, comme moi et comme vous, bien-aimés, nous pouvons dire qu'un jour, nous serons transformés. Nous serons transformés nous aurons un autre corps. Et nos habits auront aussi une autre brillance. Ainsi, nous sommes appelés à suivre pas à pas notre Seigneur. Nous serons comme lui. C'est vrai, nous serons toujours inférieurs à lui, mais nous ne serons pas les mêmes. Merci. Oui, Papa José, tu as parlé, je te donnerai la parole. Je donne au pasteur Franck. Ensuite, à Maman Christine.
Exact.
Voilà. Papa Franck.
Ok, merci, merci. Je suis au verset 4 où Élie et Moïse apparurent aux disciples, aux trois disciples, s'entretenant avec Jésus-Christ. Ce que je voudrais partager ici, c'est que nous voyons Élie qui est considéré comme un des grands prophètes, et nous voyons aussi Moïse qui est aussi considéré comme la personne qui avait, que Dieu a utilisé pour donner sa loi. Donc Moïse représente la loi et Élie représente les prophètes, et eux s'entretenant avec Jésus-Christ dans la transfiguration, c'est la preuve que Christ est au-dessus et de la loi et des prophètes. Et que la loi et les prophéties, toutes les prophéties, trouvent leur accomplissement en Jésus-Christ. C'est que Jésus-Christ est le Messie. Celui que l'Ancien Testament comme le Nouveau Testament a toujours témoigné. L'Ancien Testament a prédit la venue du Messie, et le Nouveau Testament a aussi parlé du Messie. Et c'est ça que ce verset-là m'enseigne, c'est que Christ est au-dessus et de la loi et de prophéties, et les deux s'accomplissent, trouvent leur accomplissement en Christ et en Christ seulement. Amen.
Amen. Christ est la des prophéties et de la loi de Dieu représentée par les prophètes, le prophète Élie et Moïse, qui lui aussi est un grand prophète. Merci beaucoup, frère Franck. Maman Christine.
Oui, merci. Merci, Pasteur José, pour la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis au verset 6, au verset 2 plutôt. C'est pour voir le Seigneur qui va prendre. C'est vrai, comme on dit le bien-aimé, qu'ils ont vu la gloire. Quand on pense à la gloire, on pense à l'arrivée du Saint-Esprit. Et disons, ici, je voulais souligner aussi l'aspect de l'exemple à suivre qu'on nous demande, l'exemple ici de Jésus, qui nous montre en dehors de ceux qu'ils ont vu, disons quelques qui ont vu la gloire de Dieu. Donc, il y a aussi cet aspect de ne pas prendre, il n'a pas pris tous les disciples qu'il avait, il a pris des hommes. C'est vrai, la Bible ne le dit pas, mais on peut voir que ce sont des hommes de conscience. Ce sont ceux qui vont transmettre, qui vont prêcher la parole à d'autres, vraiment d'une façon. Ça, c'est un très bon exemple à suivre. Quand on a la formation des disciples, nous ne devons pas aller avec tous les groupes. Nous pouvons prendre quelques-uns que nous trouvons dignes de confiance et pour leur transmettre, les former, pour qu'ils aillent former les autres. Ça, c'est un très bon exemple à suivre. Amen.
Amen. Oui. Seigneur, Il savait que parmi les 12, ceux qui peuvent conduire les autres, ce sont les 3-là. Et ils étaient toujours avec lui, ce groupe-là. Et ce n'est pas pour rien que leur demandait de l'accompagner. Il savait pourquoi. Il savait pourquoi. Papa José, tu as la parole. Merci, ma sœur.
Merci, frère. Le verset 5, le verset 7 m'interpelle au plus haut point. J'appelle cette expérience de Pierre, Jacques et Jean comme étant une expérience authentique. Mais l'interprétation qu'on en fait, la réaction que Pierre adopte, elle est erronée. Il pense, il réagit sur le coup en disant, en proposant de construire 3 tentes, chacun de 3 personnages, le Seigneur, Moïse et Élie, devraient en avoir chacun une. En d'autres termes, c'est un peu comme placer le Seigneur au même pied d'égalité que les 2 autres. Et c'est pourquoi le Père intervient au verset 7 pour confirmer la suprématie de Jésus sur les autres. Pour dire, maintenant là, celui que vous devez écouter, c'est mon fils, et c'est celui-ci, rendant témoignage à Jésus. Je pense que le Seigneur nous fait passer par des expériences spirituelles très intéressantes, très importantes. Mais comment, quelles sont les interprétations que nous en faisons? Aujourd'hui, la multiplicité des groupes, des églises à gauche, à droite, montre évidemment comment nous agissons par rapport à ce que Dieu nous dit. Pourrions-nous, encore une fois, le verset 7 nous ramène à retourner toujours à la parole. Si le Père dit, écoutez mon fils, écoutez ce qu'il dit. En d'autres termes, Pierre, hier nous avons vu qu'il reprenait le Seigneur sur le fait que le Seigneur a déclaré qu'il allait souffrir, mourir, etc. Il s'opposait à cela. Mais le Père vient ici encore pour dire à Pierre, il faut écouter ce que mon fils dit. En d'autres termes, ce qu'il dit, c'est ce qui est vrai. Que le Seigneur nous aide, comme nous le faisons au Fumès, qu'on retourne à la parole, parce que le Fils de Dieu, c'est la parole de Dieu. Voilà.
Oui, Dieu montre à Pierre et aux autres que c'est son fils qui mérite d'être écouté. C'est que l'apôtre, c'est que Marc rapporte ici, dans cette circonstance, c'est ce que Matthieu rapporte en parlant du Père. Lorsque le Seigneur était baptisé, une voix se fit aussi entendre dans les cieux. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Ici, cette même parole revient. C'est pour confirmer la mission du Seigneur sur la terre. C'est lui que nous devons écouter. Merci beaucoup, pasteur, pour ce partage. Oui, Papa Célestin?
Oui, merci pour la parole, Papa José. Moi, je reviens encore au verset 2.
Oui.
Et dans ce verset, et nous voyons, il va le faire un peu plus tard, avec ce groupe de 3, Pierre, Jacques et Jean. Mais nous savons que Jacques et Jean étaient des frères. Comment, dans un groupe de 12, il va prendre les deux frères ensemble, même quand il va se retirer à la prière avant de mourir, il va prendre encore ce groupe de 3. On pourrait dire, mais le Seigneur, pourquoi tu ne sais pas voir qu'il y a les autres? Pourquoi les deux frères? Frères et sœurs, souvent, le royaume des cieux, la façon dont nous regardons les choses, ce n'est pas la même façon que Dieu regarde les choses. Dieu regarde les qualités, regarde l'avenir par rapport à nous, les hommes. Nous voulons toujours dire, non, tu as déjà pris le fils de Célestin, il ne faut pas prendre un deuxième. Prends aussi le fils de José. Mais Dieu ne voit pas les choses comme nous. Le royaume de Dieu fonctionne avec ce que Dieu veut faire et non ce que les hommes, pour plaire aux hommes ou pour plaire aux qualités que les hommes placent. Voilà ce qui m'a vraiment frappé quand il va prendre les deux frères ensemble dans un groupe très restreint. Amen.
Amen. Dieu voit le cœur, la disposition du cœur. Et lui, le Seigneur, qui lisait ce qui était dans les cœurs de personnes, a vu que Jacques et Jean conviennent d'être pris parmi le trio. Il a fait, il est Dieu. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Merci beaucoup, frère. J'aimerais dire aussi un mot au verset 8. La dernière phrase, c'est-à-dire, lorsque Dieu a parlé que celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le, aussitôt, les disciples regardaient autour d'eux, mais ils ne virent plus personne. Ils ne virent plus personne. Jésus seul était avec eux. Jésus seul. Je souligne le mot seul. Jésus seul, bien-aimé, en matière de foi. Jésus seul. Et pour avoir ou savoir ce que c'est Jésus veut, il faut alors la parole seule, la Bible seule. On ne peut pas avoir la Bible et un autre livre, combiner les deux pour confesser sa foi. Ça ne va pas. Selon Dieu, la Bible seule ou Jésus seul. Pas de combinaison. Oui, le fondateur de cette église a écrit la vie des visions, tout ça. Voici ce livre. Pour comprendre la Bible, il faut alors prendre ce qu'il a dit et ajouter à ce que Jésus a dit dans la Bible. Non, bien-aimé, ça ne marche pas. Jésus seul, la Bible seule. Merci. Oui. Alors, je ne sais pas si je vais tomber juste cette fois. Maman Christine.
Oui, merci. Vous êtes rempli du Saint-Esprit, non? C'est bien. Merci, Pasteur José, pour la parole. Oui, je voudrais vraiment confirmer ce que Papa José a dit, que nous devons être prudents actuellement. Nous avons vu, je crois, Maman Gaston se rappelle, nous étions au camp biblique d'Ottawa Et il y a une sœur qui a osé dire que non, en dehors de la Bible, il faut prendre encore d'autres livres. Heureusement que nous étions là. Nous avons dit, nous, au FIMES, c'est la Bible qui est le livre par excellence. Donc, je voulais appuyer, pas autre chose, nous, pour chercher à gauche, à droite. Non, non, c'est la Bible que nous devons suivre. Et je voulais immédiatement aussi continuer avec, quand ils descendent de la montagne, maintenant, Jésus leur parle de la résurrection, qu'il ne faut rien dire jusqu'à ce que je sois ressuscité d'entre les morts. Et bien aimé, ces gens qui ont marché avec le Seigneur, ces gens que le Seigneur a même choisi monter avec à la transfiguration, ils ont vu et ils ne comprenaient pas qu'est-ce que cela signifiait. Pour dire que, bien aimé, nous pouvons suivre le Seigneur, nous pouvons avoir notre foi, mais il y a des fois, c'est la Bible ici, nous pouvons être là, mais ne pas comprendre la totalité. Nous recevons la révélation en partie pour dire qu'il y a d'autres choses que nous allons bien comprendre quand nous serons en face de notre Dieu pour demander l'explication. Amen.
Amen. Lorsque nous serons avec lui, nous pourrons demander les explications. Mais sinon, il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas dans la parole de Dieu. Oui. Papa Célestin?
Oui, merci Papa José pour la parole. Je reviens au verset 5 pour voir cette proposition de Pierre. Pour Pierre, le Seigneur les a amenés sur la montagne. Il les a détachés de la réalité de la vie. Il leur a fait voir une expérience exceptionnelle. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rester éternellement là. Est-ce que c'est pour cela que le Seigneur les a amenés? Ça leur dire, comme ça, nous pouvons expérimenter ce que nous avons vu. Alors, les tentes peuvent être dressées. Une pour Élie, une pour Moïse, une pour toi. Et la leçon que je tire, c'est que le Seigneur va nous faire passer, nous aussi en tant que ses disciples, par plusieurs expériences spirituelles. Mais il ne voudrait pas qu'on puisse s'arrêter seulement à ces expériences, sans retourner pour voir la réalité de la vie. Quand il les a fait passer par cette expérience spirituelle, c'était pour qu'un jour qu'ils puissent réellement confirmer la divinité de notre Seigneur Jésus. Pour qu'ils puissent un jour confirmer les réalités du royaume des cieux. Pour qu'ils puissent confirmer plus tard que vous voyez les gens qui meurent ici, la vie ne s'arrête pas à la mort. Après la mort, il y a une autre vie. Quelle expérience le Seigneur nous fait-elle passer? Bientôt, nous allons expérimenter quelque chose de grand. Nous serons ensemble dans un camp biblique. Mais l'après-camp est très important parce que le Seigneur ne voudrait pas qu'on s'arrête là. Comme ça, comme étant une finalité, il voudrait qu'après, nous puissions diffuser, faire expérimenter le royaume des cieux d'une manière profonde, à d'autres. Amen.
Amen.
Amen. Merci beaucoup. Nous devons aller, pas rester sur place, mais prendre cette expérience que nous avons eue avec, afin de nourrir aussi les autres de cette parole. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions attaquer à partir du verset 9 jusqu'au verset 13. Nous descendons de la montagne. J'aimerais que nous descendions de la montagne pour voir les réalités sur place. Ainsi, je donne la parole au pasteur Franck.
Donc, bon, avant d'arriver là-bas, je voulais dire quelque chose au verset 7. J'étais un moment coupé, je ne sais pas si quelqu'un a parlé de ça, je voudrais un peu contribuer pour dire simplement que parler de la voix qui est sortie de la nuée pour confirmer que Christ est le Fils bien-aimé qu'il fallait qu'ils écoutent. Nous voyons que en ce moment, après que Christ ait dit à ses disciples, aux disciples qu'il allait souffrir et mourir à Jérusalem, on a vu Pierre le reprendre. Et après que Pierre l'ait repris, ceci était une preuve de ce qu'il s'est découragé d'entendre que Christ, qui était avec eux, qui était leur encouragement, allait mourir. Il se serait séparé de lui. Et pour les encourager, d'abord, il devait être témoin oculaire de cette transfiguration. Christ les a pris là-bas pour qu'ils soient témoins oculaires. Et la transfiguration elle-même et tout ce que la voix qui est venue s'ajouter au-dessus de la transfiguration ne sont que des preuves que ses disciples avaient besoin d'un encouragement pour que même quand Christ va partir, après qu'ils aient vu la gloire, qu'ils sachent que quand ils restent fidèles comme Moïse, comme Élie, eux aussi, ils partageront cette gloire au moment où Christ va venir. Que Dieu puisse bénir sa parole.
Oui, merci beaucoup. L'apôtre Pierre a fait allusion à cet événement dans l'une de ses lettres. Il a parlé de cet événement pour montrer ce que tu viens de dire, notre frère. Au verset 9, ils descendent. Tandis qu'ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu jusqu'à ce que le Fils de l'homme se relève d'entre les morts. Ils retinrent cette recommandation, mais se demandèrent entre eux, que veut-il dire par se relever d'entre les morts ou la résurrection? C'est quoi? Au verset 9, je disais, le Seigneur leur recommanda de ne rien dire. De ne rien dire. Encore une fois, nous sommes devant le secret messianique. Chaque fois, Marc dit, Jésus dit à l'homme, il ne faut pas raconter. Il ne faut pas raconter. Il dit à l'homme, n'entrez pas dans le village, parce qu'on va te demander. J'ajoute, pas te demander. Mais c'est toujours dans le sens de secret. Et ce qui est bien ici, c'est que les disciples, ils ont gardé cette recommandation. Au verset 10, ils retinrent cette recommandation. Et ce n'est pas pour rien, bien-aimé, que le Seigneur a choisi ces trois-là. C'est peut-être à cause de leur esprit d'obéissance à sa parole. Ils ont retenu, ils n'ont pas raconté. Ils n'ont pas raconté. Ça, c'est bien. Oui, Pierre, Jacques et Jean sont des exemples à suivre. Ils ont gardé la parole du Seigneur. Merci. OK. Ah. Maman Christine,
oui.
Après Papa José.
Oui, merci, merci beaucoup pour la parole, Papa José. Ah,
attends.
Oui, je suis au verset 11. Mm-hmm. Le verset 11, les disciples, après avoir vu Élie et Moïse, moi, je me posais des questions. Ils n'avaient pas connu Moïse et Élie avant. Est-ce qu'ils se sont présentés? La Bible ne nous dit rien. Mais la réalité des choses, c'est qu'ils ont vu Élie. Et ils posent la question pour dire, mais pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'elles viennent premièrement? Et le verset 12, Jésus répond à cette question. Il répond, il leur dit, Élie viendra premièrement et rétablit toutes choses. Moi, ce qui me touche, c'est qu'il va jusqu'au bout pour leur parler. Bien-aimés, nous savons qu'avant l'arrivée de Jésus-Christ, il y avait Jean-Baptiste qui est Élie qui était venu pour préparer le chemin. Et le verset 13 me touche beaucoup. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'ils n'ont pas reconnu Élie. Ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. Mais la fin, c'est quoi? Ce qui était écrit à lui, de lui. Donc, c'est-à-dire que les gens n'ont pas reconnu Élie. Peut-être il pensait qu'il va venir et il aura un habit écrit Élie ou bien à la naissance. On dira non, non. Le Seigneur est tellement simple. Quand il envoie ses serviteurs, il utilise la simplicité. Nous connaissons quelle vie Jean-Baptiste avait. Il vivait presque au désert. Il mangeait le miel et les insectes, comme on nous a dit. Mais ici, on l'a traité. La façon dont on l'a traité, les hommes pensent que c'est nous qui avons décidé de le décapiter ou le traiter comme on le fait. Mais c'est ce qui était écrit avant qu'il descende pour faire sa mission. Dieu avait écrit qu'il mourra de cette façon. Donc là, pour dire que vraiment je suis interpellé, pour dire que parfois nous pouvons vivre, on ne reconnaît même pas que nous servons le Seigneur. On peut nous considérer n'importe quoi. Il n'y a pas vraiment à se lamenter. Nous avons vu tous ceux qui ont servi Dieu, on ne les a pas reconnus. Donc, ça nous encourage de servir Dieu, seulement regarder. Et tout ce qui arrivera dans notre vie, dans ma vie, c'est ce que Dieu avait planifié et non les plans des hommes. Amen.
Amen. Ce que Dieu avait planifié va arriver, mais pas le plan des hommes. Merci beaucoup, Papa José.
Merci encore, frère. Le verset 13 me rappelle aussi ce qui est arrivé au sujet du Seigneur. Dieu avait promis qu'il enverrait le Messie et toute la nation d'Israël le savait. 7 siècles avant que cela arrive, le prophète Ésaïe en avait parlé, la Vierge sera enceinte et l'enfantera un fils, etc. Donc le peuple attendait le Messie. Matthieu chapitre 2 dit, quand le Messie est arrivé et que les mages sont venus à Jérusalem pour demander où est le roi qui doit naître, la Bible dit, Matthieu chapitre 2, je pense les deux premiers versets, toute la ville était étonnée. Les scribes et les pharisiens étaient étonnés. Maintenant, ici encore, ils savaient aussi que Jean-Baptiste, que Élie allait revenir. Et le Seigneur confirme ici, Élie est effectivement revenu, mais ils ne l'ont pas reconnu, ils l'ont traité avec mépris. Frères et sœurs, je me dis, Dieu a promis, le peuple a une attente. Il s'attend de voir une certaine réalisation de la promesse de Dieu. Et quand Dieu accomplit sa promesse, le peuple qui est en attente n'est pas à même de comprendre que ce qui arrive est l'accomplissement de la promesse de Dieu. En est-il de moi? Est-ce que je suis en train de vivre la même chose aussi? Amen. Dieu est-il en train d'accomplir des choses dans ma vie? mais tellement que moi j'ai une vision, disons, ma façon à moi de voir cet accomplissement, que je passe à côté de l'accomplissement de la volonté de Dieu. Ça m'interpelle, frères et sœurs. Ceux qui n'ont pas reconnu Élie, ce sont ceux qui prêchaient la loi, qui prêchaient la parole, mais ils n'ont pas reconnu celui que Dieu a envoyé. Est-il de même pour moi aujourd'hui? Telle est la question.
Oui, merci beaucoup. C'est une question qui est adressée aussi à chacun de nous. Et nous ayons donc la vision du Seigneur au lieu de voir, de rester borné selon notre façon de comprendre, notre façon de vivre, notre façon d'interpréter. Que le Seigneur lui-même puisse nous aider. Bien-aimés, nous allons donner la parole pour la dernière fois à Papa Célestin et nous allons terminer avec cette parole, cette main. Merci.
Merci Papa José pour la parole. Je voulais lire le texte parallèle, c'est-à-dire la même expérience de la descente de ses disciples en Matthieu, au chapitre 17, à partir du verset 11. Ils vont en fait poser cette question, pourquoi les maîtres de la loi disent-ils qu'Élie doit venir d'abord? Donc je lis Matthieu 17, à partir du verset 11. Alors il leur répondit, Élie doit en effet venir et tout remettre en ordre. Mais quant à moi, je vous le déclare, Élie est déjà venu. Les gens ne l'ont pas reconnu, mais l'ont traité comme ils l'ont voulu. C'est ainsi que le Fils de l'homme lui-même sera maltraité par eux. Mais le verset 13, Matthieu confirme que les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Donc, pour vraiment clairement, Marc n'a pas cité les noms, Matthieu cite cette fois-ci vraiment les noms qui leur parlaient de Jean-Baptiste. Amen.
Amen. Merci beaucoup, frère, pour cet éclaircissement. Bien-aimés, nous avons appris beaucoup de choses. Nous avons vu que ce que le Seigneur dit doit se réaliser. Il parlait de quelques-uns qui suivaient son enseignement. Tous ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu. Pierre et Jean, Jacques et Jean, en vue ce royaume. Nous notons également que les disciples, surtout Pierre, lorsque il a vu le Seigneur Jésus transfiguré, il a dit, nous construisons trois tentes. L'une pour le Seigneur, l'autre pour Moïse et une troisième pour Élie. Et la voix s'est faite entendre. La voix de Dieu s'est faite entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Quelques instants, le Seigneur Jésus est resté seul. Le Seigneur Jésus est la personne que Dieu a envoyée pour nous donner le salut. Et c'est lui seul qui doit être le maître de notre foi. Et nous le trouvons dans la parole de Dieu. Ainsi, la Bible seule doit être connue comme l'unique livre qui peut nous parler de la volonté de Dieu. Lorsqu'on ajoute un autre à côté de la Bible, on est sorti. Le Seigneur a demandé à ses disciples de garder ce qu'ils ont vu. Et ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Le Seigneur nous demande d'être fidèles à lui, de lui obéir comme Pierre, Jacques et Jean l'ont été. Enfin, la préoccupation des disciples était sur Jean-Baptiste, sur Élie. Oui, Élie était déjà venu, mais il n'était pas compris par les grands juifs, c'est-à-dire les religieux. Ils ne l'ont pas connu. Bien-aimés, il y a des choses que nous pouvons approfondir seuls, puisque ce passage nous a donné beaucoup de vérité. Nous donnons la lecture pour demain et dimanche. Demain, c'est dans toujours au chapitre 9, versets 30 à 41. Oui. Et dimanche, toujours au chapitre 9, à partir du verset 42 jusqu'au verset 51. Ça, c'est pour le week-end. Nous donnons la parole à notre frère, pasteur, pour nous donner les informations qui nous regardent.
Oui, merci Papa José pour la parole. Nous avons à la radio que les frères et sœurs du Québec aujourd'hui. Nous bénissons le Seigneur pour leur fidélité. Demain, nous allons avoir l'intercession avec... Une personne qui a enlevé le mute sur la connexion de la radio. Je ne sais pas si c'est qui s'est amusé avec avec les mutes. Donc je disais que nous allons avoir une intercession demain à partir de 15h, l'heure de l'Est, l'heure d'Ottawa ou de Raleigh ou de... Mais ce sera juste pour les membres du bureau FIMES. Mais nous serons avec les frères et sœurs de l'Europe, juste intercéder pour le camp biblique. C'est juste un rappel. Merci, Papa José.
Ce sera pour une heure seulement. Merci. Nous allons prier le Seigneur. Mais nous annonçons que tout de suite là, nous avons l'intercession. L'invitation est lancée à tout le monde. Prions le Seigneur. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons et te louons parce que ta parole est la vérité. Le Seigneur Jésus est celui qui devait venir vraiment par rapport à Élie, parce que Jésus est la voix autorisée. C'est le Fils de Dieu. Il est le bien-aimé. Et c'est lui qui est le chemin qui nous mène vers lui. Seigneur, tu es Dieu et nous le croyons. Nous voulons aller avec cette conviction que tu es vraiment Dieu, nous croyons en ta divinité. Mais nous voulons être des serviteurs obéissants, faisant la volonté de Dieu. Et considérant la Bible comme l'unique Bible, l'unique parole que tu nous as laissée pour que nous puissions voir ce que tu veux pour nous en matière de foi. Nous te confions notre week-end. Demain, sois avec nous partout. Nous te prions aussi pour séance qui suit notre Seigneur, que tu sois également avec nous pendant ces quelques 5 heures de louange, d'adoration et d'intercession. Que ta grâce, ton amour et la communion du Saint-Esprit nous accompagne dès maintenant et à jamais. Amen.
Amen.
Merci bien. Bonsoir. Bonne nuit à tout le monde.